On ne sait pas exactement où était Cana. Il y avait sans doute plusieurs Cana, ce Cana de Galilée. C'était, comme Emmaüs, un village, nous pourrions dire, de troisième catégorie ou de troisième division, sans que ce soit un jugement de valeur, simplement par différence avec des villages plus connus de deuxième plan comme Bethléem, comme Nazareth. Nazareth, dont un intellectuel comme Nathanaël pouvait dire, avec mépris, de Nazareth, que peut-il sortir de bon ? Lui qui n'avait Dieu que pour Jérusalem, la grande ville, la cité sainte, comme un certain nombre de Parisiens le croient de Paris aujourd'hui. Il y avait d'ailleurs, comme dans tous les pays, des chefs-lieux, des métropoles régionales, qu'on connaît encore maintenant, Gaza, Hébron, Jéricho, Jaffa, Acre, Capharnaüm, qui étaient entourés de dizaines, même de myriades de petits villages, où vivait la plus grande part de la population. Des villages parfaits pour se marier. Et c'est comme ça que ça se passe encore la plupart du temps aujourd'hui. On se marie dans des petits villages qu'on ne connaît pas, dans des pays abandonnés, et des églises magnifiques, comme il y en a partout en France. Et c'est bien, et c'est beau, et c'est symbolique, parce qu'il est nécessaire, pour se marier, de toute façon, de se mettre à l'écart. On dit de quitter sa famille, mais pas que de quitter sa famille, de quitter l'agitation du monde. Et surtout dans le couple, pour chacun des deux dans le couple, de savoir se mettre de côté, ou plutôt de se résoudre à mettre son seul intérêt, son intérêt personnel, de côté. Et ce n'est pas une question exclusive du mariage, c'est la question centrale de notre vie au sens propre. Qu'est-ce qui est au centre de notre vie ? Mon cœur. Moi j'aime bien cette expression affectueuse qui dit bien ce qu'elle veut dire. Et ce sont deux expressions synonymes, être au cœur ou être au centre. Au cœur ou au centre de la cité, de nos discussions, de nos pensées, de nos préoccupations. Dans la préparation du mariage, le travail du prêtre et de l'Église, parce que la mission est assurée par des couples qui l'accompagnent, c'est d'amener les fiancés à comprendre que la célébration de leur mariage est centrée sur le Christ et non pas sur eux. L'avenir de leur couple en dépend. Ils pensent qu'ils sont la cause de leur mariage, que la célébration a lieu parce qu'effectivement ils ont décidé de se marier, que l'assemblée sera là pour eux, à cause d'eux, d'ailleurs constituée suivant leurs critères à eux. C'est ce qu'on avait déjà dans, à ce moment-là, il y a eu un mariage à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là. Alors on dit qu'elle était venue aider, elle était seule depuis la mort de Joseph. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Alors on peut le dire avec le ton. On va inviter Marie parce qu'elle va nous donner un coup de main, mais si on invite Marie, il faut inviter Jésus. Et puis Jésus va venir avec sa bande de disciples. Mais on était moins strict à l'époque. On était peut-être plus généreux sur le nombre d'invités. Mais résultat, on manqua de vin. Alors, on a compris qu'une partie de la leçon, on est bien plus restrictif sur le nombre des invités, mais on ne pense pas forcément à Jésus. Il y a en France, chaque année, 50 000 mariages catholiques à l'Église, environ. Je ne vous dis pas l'évolution depuis 25 ans, ça ne cesse de diminuer. Mais ça reste encore énorme compte tenu du taux de pratique dans cette classe d'âge. Il y a 50 000 mariages, il y a 10 000 prêtres. Encore une fois, environ un peu plus, tout dépend de savoir s'ils sont opérationnels ou non. Mettons 10 000 prêtres diocésains. Là aussi, le nombre ne cesse de baisser. Et les deux, les fiancés et les prêtres, sont très inégalement répartis, au moins géographiquement. Ce qui provoque chaque automne une chasse aux célébrants. Une fois que le lieu de réception a été trouvé, qu'on a choisi l'église, alors là, on peut choisir pour sa beauté, sa taille, il ne faut pas oublier le parvis pour la sortie. Et il ne reste plus qu'à trouver un prêtre moderne, qui accepte de se déplacer. Moderne, ça veut dire quoi? Moderne, ça veut dire tolérant. Moderne, ça veut dire pas trop regardant avec la foi des fiancés. Or, nous ne croyons pas à l'amour sans la foi. Ça ne veut pas dire qu'il faille être croyant pour aimer. Ça veut dire qu'elles sont trois, la foi, l'espérance et la charité, sans lesquelles aucune des trois ne peut durer, où chacune a besoin des deux autres. Bien sûr, la charité, l'amour est la plus grande. Or, la foi est un peu absente de beaucoup de mariages que nous célébrons. Pourquoi vous les célébrez? Parce que la foi appartient au secret de la personne. Parce que la foi nous a été donnée à notre baptême. Que donne le baptême? La foi. Que donne la foi? La vie éternelle. Alors on peut toujours la mettre de côté, chercher à l'étouffer, l'oublier, la refuser, la renier, penser l'avoir perdue. C'est une grâce qui nous est donnée. Et c'est une grâce qui est toujours prête à se déployer, à se manifester. Et beaucoup d'entre vous le savent, en particulier dans l'adversité, dans les épreuves. Ici, ce n'est pas une épreuve, mais ici à Cana, face à un problème. Était-ce, à votre avis, la première fois que Marie demandait à Jésus de manifester sa puissance divine? Était-ce la première fois qu'elle lui demandait, elle lui suggérait, mais elle lui demandait un miracle? La réponse de Jésus le laisse penser, mais la vraie question c'est, est-ce que c'est Marie qui le demande ou est-ce que c'est l'Esprit-Saint? Alors une fois que la date et le lieu de réception du mariage sont fixés, les fiancés viennent nous voir et nous avons entre 3 et 6 mois pour remettre le Christ au centre, comme jadis l'Église au centre du village. Alors, je le répète, ici nous les voyons tous ensemble au moins une fois par mois, je le répète à chaque fois que la meilleure préparation au mariage, c'est la messe le dimanche. Ils ne sont pas là le week-end. Ils n'ont pas beaucoup de lien avec l'Église, pas de lien avec une paroisse. Ils n'ont d'ailleurs pas de communauté à proprement parler, en dehors de leur famille, de leur boulot, d'un groupe de copains ou d'amis. Nous avons entendu dans la deuxième lecture la première partie du chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens. Nous entendrons la suite dimanche prochain, où saint Paul rappelle, et c'est particulièrement d'actualité, ce qu'est un corps social. Un corps social, ce n'est pas une masse informe. Un corps social, c'est une communauté organisée où chaque personne a une fonction, une vocation, une contribution, où chaque personne est indispensable à la vie des autres. Nous entendrons dimanche prochain, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Dans une société, chaque personne est indispensable à la vie des autres. Une communauté, c'est une personne morale qui est relativement indépendante des personnes physiques, des individus qui la composent. Aucune des personnes qui la composent n'en est le centre, sinon la communauté ne lui survit pas. Se croire le centre du monde, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Il est naturel de regarder le monde à partir de soi, de regarder la vie à partir de son propre regard. C'est naturel, nous le disons, pour notre nature blessée. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, Dieu nous a créés hommes et femmes pour qu'aucun des deux ne puisse se croire le centre. Et le texte biblique le dit, c'est de son côté que la femme a été donnée à l'homme qui savait qu'il n'était pas le centre du monde. Il avait pris conscience qu'il était seul de son espèce parmi tous les êtres de la création. Il n'était pas le centre du monde. Le péché originel, la marque du péché originel en nous, c'est de se croire le centre du monde. Et toute la vie chrétienne, et c'est pour ça que nous sommes là ce matin, que nous venons chaque dimanche, Toute la vie chrétienne, c'est d'amener, de ramener sans cesse à ce décentrage de soi, à remettre le Christ au centre, comme l'Église au centre du village. La règle d'or de la vie chrétienne dit que chacun doit faire pour les autres ce qu'il voudrait que les autres fassent pour lui, même s'ils ne le font pas, il faudrait toujours le rajouter. Faire pour les autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, même s'ils ne le font pas. Et Jésus explique, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous ? En quoi vous distinguez-vous des païens ? Si notre cœur est le centre du monde, il est urgent de revenir à la messe. Il est urgent de nous convertir. Le cœur de l'Église, c'est l'amour, disait Thérèse. C'est le cœur sacré de Jésus. Et il n'en va pas seulement du mariage, mais de toute la vie chrétienne. Simplement, le rôle, la grandeur du mariage, c'est de choisir et aimer librement son conjoint pour devenir ensemble capable d'aimer ce que l'on n'a pas choisi, à commencer par la famille de l'autre. Il y a eu un mariage à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là, Jésus aussi avait été invité, et avec ses disciples. Et Jésus a sauvé ce mariage. Il l'a sauvé de la sécheresse, il l'a sauvé de la frustration, il l'a sauvé de la dispute, il ne l'a pas fait par amitié pour des époux dont on ne connaît même pas le nom, il ne l'a pas fait parce que ses mariés le méritaient, il l'a fait parce que sa mère lui a demandé. Alors on peut dire que c'est l'Église, mais c'est simplement déjà la Vierge Marie. Et quand elle lui dit « ils n'ont plus de vin », il ne répond pas ce que la plupart d'entre nous pourraient penser « ils auraient pu prévoir ». Il a cette réponse que l'on pourrait traduire ainsi. Veulent-ils vraiment que je sois pour l'éternité à venir le héros de la fête? Parce que c'est ça qui s'est passé, c'est ça que nous célébrons. Veulent-ils vraiment que je sois pour l'éternité entière le héros de la fête? Et c'est la question qui nous est posée à nous, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre relation au mariage, notre situation, notre âge. Voulez-vous, dit Jésus, voulez-vous que moi je sois le centre de votre vie? Posez-vous cette question, la seule question centrale, de savoir qui est au centre de votre vie. Essayez, pour cela, faites mentalement, aujourd'hui, cette semaine, un tableau de votre existence. Et voyez où vous vous situez. Qui est au centre? Je vous assure, ou plutôt, je vous promets, que quand on met Jésus, quand on met Dieu, quand on met l'amour absolu, l'amour de Dieu au centre, tout s'éclaire, tout s'allège. Ça nous libère de responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Ça nous remet dans de justes relations les uns à l'égard des autres. Essayez, vous verrez ce que signifie garder le bon vin jusqu'à maintenant. Avec le Christ au centre, le meilleur dès à présent.